Merci d'écouter RFI Midi en temps universel. Il est 13h ici à Paris.
RFI Midi.
Lors du journal, bonjour Florent Guignard.
Bonjour Anne Cantenaire et bonjour à toutes et à tous. À la une, la guerre du feu à Los Angeles, des renforts militaires déployés pour affronter les incendies qui ont tué au moins 10 personnes. Les forêts s'embrasent, la planète aussi. 2024, année la plus chaude au monde depuis qu'on enregistre les températures. Un nouveau mandat commence aujourd'hui pour Nicolas Maduro, le président du Venezuela. Un nouveau président pour le Liban. Et dans ce journal, nous verrons quels sont les chantiers qui l'attendent. Ils sont nombreux. Le bilan de la guerre d'Israël à Gaza, très largement revu à la hausse par une étude de chercheurs scientifiques. Enfin, on écoutera le palmarès des musiques préférées en France, des musiques les plus écoutées en 2024. Eh bien, les Français préfèrent les Français.
RFI Midi.
Le bilan s'est alourdi à Los Angeles où les incendies font toujours rage.
Au moins 10 morts selon les dernières informations, ça c'est le bilan humain. Quelques 10 000 bâtiments ont aussi été détruits par les flammes, on ne compte pas les arbres. Bilan aussi très provisoire des pertes économiques de ces incendies, au moins 50 milliards de dollars. Et ce n'est sûrement pas fini, Christophe Pagé.
Oui, les incendies continuent. Celui de Pacific Palisades, un quartier peuplé de multimillionnaires et de célébrités dans le nord-ouest de Los Angeles, n'est toujours pas circonscrit. Il brûle depuis des jours, et ce, malgré le largage d'eau par des hélicoptères qui ont pu intervenir à la faveur d'une accalmie de ces vents violents qui attisent les flammes. Même chose pour le quartier d'Altadena, au nord. Les pompiers affirment quand même qu'à cet endroit, la propagation du feu a été considérablement stoppée. Des centaines de renforts militaires sont attendus sur place. Le gouverneur démocrate Gavin Newsom a ordonné le déploiement de la garde nationale, d'abord pour assister les pompiers contre les feux, mais aussi pour ramener l'ordre. La région est victime de pillages. Au moins 20 personnes ont été arrêtées. Selon les autorités, les conditions restent critiques, car si ces derniers jours les vents se sont calmés, ils n'ont pas disparu et les collines sont toujours très sèches. 180 000 personnes sont encore sous le coup d'une évacuation. Hier, un nouveau foyer s'est déclaré dans le nord-ouest, près du quartier très riche de Hidden Hills. Pour ce qui est du quartier d'Hollywood, il a finalement été sauvé. L'incendie dans les collines a été maîtrisé par les pompiers.
Christophe Pagé du service international de RFI.
Et face à ces incendies, une déclaration de Joe Biden.
Le changement climatique est une réalité, a dit le président sortant des États-Unis. Et c'est vrai, 2024 entre dans le livre des records, comme 2023 d'ailleurs il y a un an. 2024, l'année la plus chaude de tous les temps depuis qu'on mesure les températures en 1850. La progression, la moyenne des températures mondiales l'an passé a même dépassé le seuil très symbolique de 1,5 degré, Pauline Glaise.
Le thermomètre a précisément grimpé d'1,6 degré au-dessus de la moyenne de la période 1850-1900. Et ce n'est pas le seul record, le rapport de Copernicus en regorge. Chacune des 10 dernières années figure dans le top 10 des années les plus chaudes. La journée la plus chaude en moyenne mondiale a été enregistrée en 2024, au mois de juillet, mois qui est pourtant le seul depuis juillet 2023 à ne pas avoir vu la hausse de la température dépasser la barre du degré et demi. L'atteindre ou la dépasser, c'est tout un symbole, c'est l'un des objectifs phares fixés par l'accord de Paris. Cela ne veut pas dire qu'il est bafoué pour autant, c'est une moyenne sur 20 ans qui comptera. Mais si le phénomène naturel El Niño, désormais terminé, a aggravé le coup de chaud, la principale cause de ces fortes températures, c'est l'activité humaine avec les émissions de gaz à effet de serre. La concentration de CO2 et de méthane dans l'atmosphère a d'ailleurs aussi battu un record. Allez, un dernier parmi d'autres, la quantité de vapeur dans l'atmosphère a atteint un niveau jamais vu. Cela accroît le stress thermique et l'intensité des pluies.
Ça bouge sur le front de la guerre en Ukraine, ça bouge sur le plan diplomatique.
Vladimir Poutine se dit ouvert au contact avec Donald Trump, alors que le président élu des États-Unis a annoncé préparer une rencontre avec le président russe pour en finir avec la guerre en Ukraine. L'Ukraine aussi dit espérer une rencontre avec Donald Trump juste après le 20 janvier, la cérémonie d'investiture du 47e président des États-Unis.
Investiture aujourd'hui, cette fois, nouvelle cérémonie pour le président du Venezuela.
Et oui, c'est aujourd'hui le début du troisième mandat mandat de Nicolas Maduro qui avait succédé à Hugo Chavez en 2013. Nouveau mandat de 6 ans après une présidentielle très contestée en juillet dernier. De nombreux pays d'Amérique latine ne reconnaissent pas la réélection de Nicolas Maduro. Le Venezuela vient d'ailleurs de fermer la frontière avec la Colombie en raison, dit Caracas, d'un complot international. Le Venezuela, seul contre tous ou presque, écoutez ce qu'en dit Yoletti Bracho, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université d'Avignon.
Ce qui est probable, c'est que le fait de cette non-reconnaissance est lié des relations diplomatiques moins actives, voire on va certainement voir en fait des ambassades fermées. C'est déjà le cas, par exemple, de l'ambassade de Chili. On peut imaginer une non-reconnaissance électorale, par exemple, de la part des États-Unis. Du coup, on peut imaginer que ça amène une série de sanctions ou la recrudescence des sanctions économiques qui existent déjà. L'isolement de Venezuela de la communauté internationale occidentale peut avoir des conséquences lourdes en fait sur l'économie vénézuélienne, dont les premiers à vivre les conséquences sont ceux qui habitent sur place.
Yoletti Bracho de l'Université d'Avignon.
Le Liban, lui, a un nouveau président depuis hier.
Et ça faisait plus de 2 ans qu'on l'attendait, alors que le pays s'enfonçait dans la crise économique et sociale, sans parler de la guerre lancée par Israël. Le nouveau chef de l'État libanais est un général, Joseph Aoun, 61 ans. Et ce sont de nombreux dossiers qui l'attendent au Liban. Les changements, c'est maintenant Paul Khalife.
Le premier acte du chef de l'État sera de nommer un premier ministre et de former un nouveau gouvernement pour remplacer celui de Najib Miati, chargé d'expédier les affaires courantes depuis mai 2022. Avec des pouvoirs limités, le gouvernement sortant était paralysé, alors que le Liban est sommé par la communauté internationale de procéder à des réformes économiques structurelles pour bénéficier d'une aide financière cruciale. La formation d'un nouveau gouvernement permettra de relancer l'administration publique, qui fonctionne depuis des années au ralenti, ou parfois pas du tout, et va redynamiser une justice paralysée. Le président, seul habilité selon la Constitution à signer des accords internationaux, pourra s'employer à renforcer la trêve fragile avec Israël et accélérer le retrait israélien du Sud-Liban. Autre dossier épineux qui attend Joseph Aoun, les relations avec les nouvelles autorités syriennes. Il devra négocier le tracé des frontières et relancer le projet du retour de 2 millions de réfugiés et déplacés syriens accueillis au Liban. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Le premier ministre libanais sortant annonce d'ailleurs un déplacement à Damas.
Et ce sera samedi, alors que les délégations étrangères se succèdent dans la capitale syrienne pour rencontrer le nouveau pouvoir. Aujourd'hui, c'est le chef de la diplomatie italienne qui est à Damas. Il a rencontré tout à l'heure Ahmed Al-Shara, le ministre turc des Affaires étrangères. Lui donnait une conférence de presse ce matin à Istanbul pour assurer que la Turquie n'avait pas d'agenda secret sur la Syrie. Et pour régler aussi quelques comptes avec la France, accusée de ne pas prendre en compte la sécurité de la Turquie, en référence au soutien de Paris aux forces kurdes. Hakan Fidan demande aussi à la France de bien vouloir récupérer ses djihadistes.
Si la France a quelque chose à faire, c'est de prendre ses propres citoyens, de les amener dans ses propres prisons et de les juger dans ses propres tribunaux. Ce n'est pas de les confier aux services pénitentiaires des YPG ou d'une autre organisation terroriste et de venir dire ensuite qu'ils soutiennent cette organisation. Dans ce cas, pourquoi ne pourrais-je pas rassembler tous les membres du PKK détenus en Turquie pour les envoyer sur une île française ou dans n'importe quelle région française et pour qu'il soit détenu là-bas. Est-ce qu'un tel monde existe ?
Le chef de la diplomatie turque, traduction à Istanbul, Dan Andlauer.
Plus de 46 000 morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre menée par Israël.
Un chiffre fourni chaque jour par le gouvernement du Hamas, mais un chiffre largement sous-estimé selon une étude scientifique publiée aujourd'hui, Pierre-Olivier. Des chercheurs affirment qu'un habitant de la bande de Gaza sur 35 a été tué par l'armée israélienne.
Oui, et c'est grâce à une méthode scientifique baptisée capture-recapture que les chercheurs sont arrivés à ce chiffre. Il s'agit en fait d'une technique qui a déjà fait ses preuves pour compter le nombre de morts dans d'autres conflits, notamment au Guatemala ou au Kosovo. Alors comment cela fonctionne ? Bien, les auteurs de l'étude se sont appuyés sur 3 listes. La première, fournie par le ministère de la Santé du Hamas, qui recense les morts identifiés dans les morgues et les hôpitaux. La deuxième est issue d'une enquête en ligne dans laquelle les Palestiniens ont signalé le décès d'un proche. Et la troisième a été établie à partir des avis de décès publiés sur les réseaux sociaux. En recoupant ces 3 listes et en retirant bien sûr les doublons, les chercheurs estiment avoir une bonne estimation de la population tuée. L'étude, qui s'arrête au 30 juin dernier, fait ainsi état de 64 260 morts contre près de 38 000 selon le Hamas pour la même période, soit une hausse de 41%. Un bilan qui ne concerne que les décès liés à des blessures et lésions traumatiques et qui ne prend pas en compte les morts indirectes par manque de nourriture, par exemple, ou encore les milliers qui seraient ensevelis sous les décombres.
Pierre-Olivier du service international de RFI.
En Corée du Sud, le bras de fer se poursuit entre les enquêteurs et le service de sécurité du président.
Vous le savez, la garde présidentielle empêche physiquement l'arrestation du président destitué par le Parlement alors qu'il avait voulu instaurer l'état d'urgence. Mais voilà, surprise, aujourd'hui, le chef du service de sécurité de la présidence a démissionné, Nicolas Roquin.
Coup dur pour Yoon Suk-yeol, le président déchu qui refuse de se présenter aux convocations de la justice perd le chef de sa garde rapprochée, Park Jong-jun, l'homme qui avait organisé la résistance au mandat d'arrêt. La semaine dernière, durant 6 heures, ces hommes ont empêché physiquement l'arrestation du président. Mais ce vendredi, Park Jong-jun a fini par céder. Visé par une enquête pour obstruction de justice, il a présenté sa démission. Après avoir ignoré à deux reprises des convocations de la police, il est allé répondre aux questions des enquêteurs et à celles des journalistes.
Je pense qu'en aucun cas il ne doit y avoir d'affrontement physique ou d'effusion de sang. Et pour éviter que ces situations se produisent, j'ai appelé à plusieurs reprises le président en exercice, Choi Sang-mok, pour lui proposer une médiation entre agences gouvernementales. Et j'ai également demandé à l'équipe juridique du président d'envisager une solution alternative. Mais je n'ai pas reçu de réponse satisfaisante.
Une réponse aux craintes d'affrontements violents entre les services de la présidence et les enquêteurs. Une nouvelle tentative d'arrestation se prépare. 1000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés. En plus de l'enquête pour rébellion pour laquelle il pourrait être arrêté, Yoon Suk-yeol est convoqué par les juges de la Cour constitutionnelle. Son procès en destitution débutera ce mardi, avec ou sans lui.
On reste en Asie avec une attaque d'un nouveau genre, on va dire. Une attaque au marteau dans une université à Tokyo, au Japon. Au moins 8 morts selon le dernier bilan. L'assaillant a ensuite été appréhendé par les forces de l'ordre. On ignore pour l'instant ses motivations.
Enfin, un cocorico musical pour terminer ce journal.
Les Français préfèrent écouter les Français. C'est le principal enseignement du palmarès 2024 des chansons les plus écoutées en France, selon le SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique. Dans le top 20, Edmond Sadaka, 18 artistes sont français.
C'est le rappeur français Werenoi que l'on retrouve sans surprise à la tête de ce classement. L'artiste de 30 ans est porté notamment par son dernier projet Pyramide 2 et par le tube Pétunia.
Je suis plus très loin du soleil, jamais très loin de la côte, je suis dans les caisses, dans toutes les oreilles.
Pour autant, les rappeurs ne dominent plus le palmarès. Si le top 10 est équilibré avec 4 artistes urbains, Werenoi, PLK, SDM et Jules, on retrouve aussi à la 3e marche le vétéran Nicolas Sirkis et son groupe Indochine, dont l'album Babel Babel a cartonné l'an dernier. Dans ce classement, à retenir aussi que le pianiste Sofiane Pamar devient le maître incontesté du rayon classique, quitte à faire bondir quelques puristes. Quant aux artistes féminines, elles restent sous-représentées malgré les bonnes performances de superstars américaines comme Billie Eilish ou Taylor Swift ou encore de la jeune française Zao de Sagazan. Dans le top 200, un peu plus d'un album sur 5 est féminin. C'est peu, mais le SNEP y voit, je cite, une évolution encourageante qui ne demande qu'à être renforcée.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires à deux, même des plus beaux amours heureux. On a beau croire qu'on a gros caractère, ah, ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire. Tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares?
Zao de Sagazan pour terminer ce journal. Les Dormantes, c'est extrait de son dernier album, La Symphonie des Éclairs. Il est presque 13h15 à Paris, c'est à vous Anne Cantenaire.
Merci Florent Guignard. Et si vous voulez écouter autre chose que de la musique française, rendez-vous sur notre site RFI Musique. On passe à l'actualité sportive. Bonjour Eric Mamrut.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Avec du tennis pour commencer, à 38 ans, Gaël Monfils a encore de beaux restes puisque le voilà en finale du tournoi d'Auckland.
Et pour se qualifier, le Parisien a battu cette nuit un joueur de 19 ans, la moitié de son âge, le feu follet espoir américain Ninesh Basavaredi, dominé 7-6-6-4. Gaël Monfils qui atteint ainsi la 35e finale de sa carrière. C'est une de moins que Yannick Noah, le recordman français en la matière, l'actuel 52e joueur mondial, content de sa prestation du jour. Gaël, mon fils.
J'ai fait un bon match aujourd'hui, je me suis bien sorti parce qu'il jouait vraiment bien, il jouait vite des deux côtés. Je savais qu'il avait une tendance à jouer vraiment très rapide avec son revers, donc j'ai réussi à bien le neutraliser. J'ai eu beaucoup de réussite dans le tie-break et après, pareil, au deuxième set, ça s'est joué à rien, donc franchement, je suis content de m'en être bien sorti. Je suis content de faire une nouvelle finale.
Et à 38 ans, Gaël Monfils devient le deuxième joueur le plus âgé depuis la création de l'ATP Tour en 1990 à atteindre une finale. Ceci après le Croate Ivo Karlovic. Il tentera demain à Auckland face au Belge Zizou Bergs de décrocher le 13e titre de sa carrière.
En football, coup d'envoi ce soir de la 17e journée de Ligue 1 avec deux matchs à l'affiche.
À 20h, temps universel, tout d'abord, Lille se déplace à Auxerre avec l'espoir d'enchaîner un 19e match consécutif sans défaite. Le LOSC 4e de la Ligue 1 à deux longueurs de l'AS Monaco, le club de la Principauté qui, deux heures plus tôt, jouera chez un mal classé Nantes. Les Canaries actuels 16e et barragistes de la Ligue 1 qui n'ont pris que 5 points sur 24 possibles dernièrement. Une mauvaise passe difficile à vivre selon le défenseur camerounais Jean-Charles Castelletto.
C'est sûr que Monaco aussi, ce sera un match compliqué. Mais en tout cas, on est focus sur ce match-là. On sait qu'on a besoin de points, donc il va falloir qu'on fasse un bon match. C'est des saisons qui sont compliquées parce que peut-être qu'on ne prend pas les points assez rapidement et après on se retrouve à la fin à jouer le maintien jusqu'au dernier match. Donc voilà, c'est sûr que c'est compliqué. Pour le mental, c'est difficile. Mais voilà, j'espère qu'on arrivera un jour ou l'autre, au fil des saisons, on arrivera à jouer le haut de tableau. C'est l'objectif en tout cas.
Jean-Charles Castelletto, micro de Ndiaye Sam. Cette 17e journée se poursuivra ce week-end avec notamment demain le duel Rennes-Marseille et dimanche le match Paris-Saint-Germain-Saint-Etienne.
Pendant ce temps-là, en Allemagne, la Bundesliga reprend après 3 semaines de pause hivernale.
Avec une belle affiche ce soir en préambule de la 16e journée du championnat, le 6e Dortmund reçoit l'actuel 2e du classement, le Bayer Leverkusen. Les jaunes et noirs de Dortmund, qui après 3 matchs nuls consécutifs en Bundesliga, se sont bien relancés juste avant la trêve en allant s'imposer à Wolfsburg. De quoi espérer enchaîner avec d'autres victoires, c'est le vœu en tout cas de leur entraîneur, Nuri Sahin.
Ce serait très important pour le classement car nous pourrions alors monter tout en battant des adversaires de haut niveau. Jusqu'à présent, nous avons toujours bien joué et nous avons tenu tête à tous ces grands noms, à tous ces grands adversaires, à toutes ces bonnes équipes. Aujourd'hui, nous jouons à domicile, donc nous voulons vraiment gagner le match. Et puis, une victoire dès le début d'année serait aussi un bon présage pour entrer dans le rythme et pour pouvoir prendre beaucoup plus de points cette année par rapport au premier mois de la saison.
Le Borussia Dortmund qui affrontera un Bayer Leverkusen privé de son attaquant Victor Boniface, blessé à la cuisse avec la sélection nigériane en novembre. Coup d'envoi 19h30, temps universel. Et puis Real Madrid FC Barcelone. Ce sera dimanche l'affiche de la finale de la Supercoupe d'Espagne. Hier, le club madrilène s'est qualifié en dominant Mallorca 3-0. Cette Supercoupe d'Espagne qui se déroule à Jeddah, en Arabie Saoudite.
Merci Eric Mamrut.
RFI Midi, Anne Cantenaire.
On va parler maintenant de l'investiture de Nicolas Maduro au Venezuela, 3e mandat pour le président, alors que les autorités n'ont toujours pas publié les documents officiels attestant de sa réélection. D'ailleurs, l'opposition, qui elle a communiqué des résultats, répète qu'elle a gagné la présidentielle de juillet dernier. Bonjour Edouard Dorios.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste du Venezuela. À l'approche de cette investiture prévue tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'arrestations ces derniers jours, des militants, des journalistes, sans compter la répression des derniers mois. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de l'opposition au Venezuela ?
Je Je pense que la position est surprenamment dans un de ses meilleurs moments. La façon dont elle a réagi au vol des élections de la part de Nicolas Maduro a mis notamment la dirigeante de Maria Corina Machado dans une position assez forte. Et du coup, l'opposition qui est extrêmement affaiblie compte une sorte de soutien populaire de nos jours qui est intéressante et qui est renouvelée de par sa victoire électorale.
Est-ce qu'elle a encore, vous nous parlez du soutien populaire, est-ce qu'elle a encore des équipes, est-ce qu'il y a des militants qui sont encore à même de se mobiliser à la fois dans la capitale et dans le reste du pays ?
Alors, dans le sens où ça permettrait de changer le gouvernement aujourd'hui, je pense que ça serait très compliqué. Mais oui, non, il y a des gens qui sortent, il y a encore des dirigeants, des équipes. La mobilisation en régime autoritaire est extrêmement compliquée et doit être faite avec beaucoup de précautions. Et je pense qu'elle l'est faite avec beaucoup de précautions. Mais l'opposition existe, elle est là et elle participe. Et aussi, il ne faut pas oublier, dans ces conditions de répression, elle a réussi à gagner des élections de façon assez évidente il y a quelques mois. Donc, je pense que l'opposition est là, elle n'a pas disparu et elle s'est remétamorphosée, elle a revécu de ses cendres, c'est très impressionnant.
Elle l'a montré d'ailleurs hier lors d'une manifestation organisée à Caracas. On a pu voir d'ailleurs que Maria Corina Machado avait été accueillie avec une ferveur immense. Elle a été arrêtée brutalement, libérée assez rapidement pour sa première sortie de clandestinité depuis le mois d'août. Aujourd'hui, c'est un autre opposant qu'on attend. C'est celui qui était candidat face au chef de l'État en juillet, Edmundo González Urrutia. Lui, il avait promis de rentrer de son exil espagnol pour prêter serment ce vendredi. Vous y croyez ?
Je pense que là, il n'est pas au Venezuela, sinon on le saurait. Mais le problème n'est pas un problème du 10. Le 10 est une date. Je vais peut-être utiliser une métaphore un peu compliquée. On n'est pas en train de mener une lutte médiévale. On n'est pas en train de dire le 10, c'est la grande bataille et c'est le seul moment où on pourra avoir la victoire. Je pense que ce qui est en train l'opposition en particulier, en train d'insister sur cette date du 10 pour juste montrer qu'à partir d'aujourd'hui, il y a à nouveau dans le Venezuela une situation de bifurcation institutionnelle où il y a une partie de la classe politique, notamment l'opposition, qui va considérer qu'il y a un groupe, des personnages, une série d'institutions potentiellement soutenues par Donald Trump là, qui existe et qui est légitime, et le chavisme qui en soutient une autre, soutenue évidemment par la Chine, la Russie, etc. Donc je pense qu'on est dans une situation un peu similaire à celle qu'on a vécue sous Guaido, mais complètement différente, parce que maintenant, il y a beaucoup plus de ferveur populaire derrière la solution d'opposition.
Puisque vous en parlez justement de ce soutien d'un certain nombre de pays, il faut rappeler en effet qu'ils sont plusieurs à avoir refusé de reconnaître la réélection de Nicolas Maduro. Les États-Unis, vous l'avez dit, l'Espagne, la France, l'Italie, ce matin encore, plusieurs pays dans la région, notamment la Colombie. D'ailleurs, la frontière a été fermée il y a quelques heures entre les deux pays sur décision de Caracas qui parle de complot. Ça peut changer quelque chose, ces positions internationales ?
Non, mais je pense que le pays que vous avez oublié, ce qui n'est pas une erreur, mais qui est très importante, c'est le Brésil. Le Brésil n'a pas soutenu.
D'ailleurs, Lula ne fera pas le déplacement pour l'investiture.
Correct. Et hier, les déclarations de Boric, de Chilien, étaient particulièrement fortes. Donc, je pense que la gauche, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on vit un nouveau moment de rupture qui est en train de fissurer la gauche latino-américaine entre une gauche dure qui soutient encore Caracas et une gauche plus, on va le dire, social-démocrate pour manque de d'adjectifs, qui est en train de s'en séparer. Je pense que c'est un moment qui montre une rupture importante à l'intérieur et de la gauche latino-américaine et de la classe politique vénézuélienne. Et qu'est-ce qui en découlera ? Je pense que c'est trop tôt pour le savoir, mais je pense que dans un milieu répressif, le fait que l'opposition ait réussi a créé un moment de rupture politique évident et quelque chose à remarquer.
Vous nous parlez du milieu répressif. On a parlé de cette présidentielle de juillet. D'après les chiffres qui sont disponibles, il semble assez évident que Nicolas Maduro l'a perdu. Qu'est-ce qui lui permet encore de tenir au sein du pays ? Ce sont des soutiens militaires, économiques ? Sur quoi il s'appuie ?
Le pétrole. Je pense que l'État vénézuélien, c'est facile, c'est les militaires d'une part, le pétrole de l'autre, il détient les deux, il est au pouvoir. Alors, la seule difficulté, je pense que ce qui a changé fondamentalement avec cette élection, c'est que à l'intérieur, il y avait deux débats, toujours dans le chavisme, un à l'intérieur du chavisme et un envers l'opposition. Celui envers l'opposition a été résolu par la force et la répression à partir de 2015. Celui à travers du chavisme était résolu par la légitimité populaire. Maduro a éliminé la légitimité populaire, c'est-à-dire le vote, comme façon de se maintenir au pouvoir. Du coup, ce qui s'est passé hier, par exemple, avec Maria Corina Machado, où on l'a capturée, libérée, on ne sait pas trop comment, pourquoi, et qui a décidé, montre bien que Maduro, vu qu'il compte plus sur la légitimité populaire pour s'imposer à l'intérieur de son propre camp, montre qu'il y a des faiblesses à l'intérieur de son propre camp. Je pense que c'est là où on est, on est dans une situation dans laquelle il n'y aura plus de fluidité qui sera permise de par le fait que Maduro, maintenant, a placé la dynamique politique vénézuélienne clairement du côté de la force et du coup de palais.
Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça craque ?
Ah, j'en sais rien, mais on n'en sait rien. Je veux dire, regardez la Syrie. Qu'est-ce qu'il fallait pour que ça craque ? Je ne sais pas, qu'un petit sous-groupe islamiste attaque la troisième ville du pays. Je pense, quand les choses craquent, les choses craquent. Mais est-ce qu'on est dans une situation dans laquelle il y a une paralysie totale ? Non. Est-ce qu'on est dans une situation qui est très fluide ? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Maduro va tomber ? Le 10, non, je pense pas que c'est pas très envisageable.
Je vous remercie beaucoup, Eduardo Rios, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et spécialiste du Venezuela. Cette situation qu'on décrit, l'absence d'alternative au pouvoir pour le moment, et puis la crise économique qui est très sévère dans le pays, a poussé déjà plus d'un quart de la population à fuir. 8 millions de personnes ces dernières années, des migrants qui souvent rejoignent le Mexique, comme des millions d'autres venus du sud du continent. Le Mexique est un point de passage pour ceux qui tentent de trouver une vie meilleure aux États-Unis. Mais dans 10 jours, après l'investiture de Donald Trump, tous ces exilés risquent de trouver des conditions extrêmement dures au bout d'un parcours qui est déjà très éprouvant et très dangereux. Notre correspondante au Mexique nous emmène aujourd'hui dans le sud du pays, dans l'état de Veracruz, où un groupe de femmes surnommées les Patronas aide les migrants. Elles leur jettent de la nourriture au passage du train sans qu'il ne s'arrête. Ce train que tout le monde appelle la Bestia, tant il est difficile de monter dessus et surtout d'y rester. Reportage, Gwendolina Duval.
Lancé à environ une trentaine de kilomètres heure, le train traverse le village chargé de wagons-citernes. Accrochés aux attelages, 5 ou 6 hommes se suspendent pour attraper les sacs tendus par les patronas. Ce type de train laisse peu d'espace aux migrants, mais ils sont parfois des centaines lorsqu'il s'agit de conteneurs, raconte Itabiana Vedagno en rangeant tous les sacs qu'elle n'a pas eu le temps de donner. Les patronas habitent toutes au bord du chemin de fer, toute la journée elles guettent les passages.
El número de trenes es imprevisible.
On ne peut pas prévoir le nombre de trains. On ne sait jamais à quel moment il va passer. Donc, on doit toujours être préparé quand on entend arriver pour sortir sur les rails avec des sacs de nourriture. Ça peut beaucoup compter pour eux dans leur parcours.
Les patronas regroupent une dizaine de volontaires qui se relaient pour cuisiner ce qu'on leur donne, du riz, des légumes, des sandwichs, préparés depuis de très nombreuses années par Julia Ramirez.
Je viens toute la journée, je travaille avec beaucoup d'amour. Tant que Dieu me donne la santé, je continuerai à aider.
Sur une voie unique, entourée de végétation tropicale, le train de marchandises, surnommé par les migrants la Bestia, passe obligatoirement par ce village situé en zone rurale. Omar, à 27 ans, s'est engagé il y a 4 mois comme volontaire.
Certains parlent aussi du train de la mort. Nous en avons été témoins, malheureusement.
Un mois plus tôt, à cet endroit, un Vénézuélien de 21 ans est mort, écrasé.
Il est tombé du train. On n'a rien pu faire pour le sauver.
Omar nous emmène le long des rails, à quelques dizaines de mètres des maisons, là où les femmes ont installé une petite croix blanche.
C'est arrivé juste là. C'est une petite preuve de foi. Quelque chose pour dire qu'il est encore là et que le rêve qu'il portait n'est pas mort. Cette personne, je ne lui ai pourtant jamais parlé, mais je n'oublierai jamais son visage.
Un petit refuge destiné à accueillir les tombés du train ou ceux qui vont à pied est vide ce jour-là. En colère, Norma Vasquez explique que depuis des mois, les migrants sont traqués par les autorités mexicaines et se dépêchent d'aller vers le nord avec la Bestia.
Ils ne peuvent pas prendre un bus parce qu'il y a toujours un risque que la police des frontières les attrape et les renvoie vers le sud. Donc, beaucoup d'entre eux ont peur. Et le seul moyen qu'ils ont pour voyager, c'est le train.
Depuis déjà 30 ans qu'elle jette des repas sur le train, elle a vu défiler les mesures de la migration, tant au Mexique qu'aux États-Unis, et la situation a toujours empiré.
Ils menacent toujours de militariser les frontières, de construire des murs, etc. La migration continuera. Et c'est le migrant le plus pauvre qui en subira toujours les conséquences.
Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
depuis le Venezuela. Je m'appelle Valentina, je suis prof de français et j'utilise le journal en français facile tous les jours en cours.
Le journal en français facile, Adrien Delgrange.
10 minutes pour mieux comprendre l'actualité mondiale en français.
C'est un super outil pédagogique qui permet d'évoluer dans la compréhension de l'oral et aussi d'être au courant de l'actualité internationale.
Le journal en français facile, c'est du lundi au vendredi à 16h temps universel sur RFI.